Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, je vous emmène en Belgique pour évoquer un événement aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. C'était le 10 janvier 1940, l'incident de Mechelen. Le 10 janvier 1940, l'avion de deux officiers supérieurs de la Luftwaffe atterrit par erreur en Belgique. Les deux gradés portent sur eux le plan d'offensive à travers le plat pays. Ils ne peuvent le détruire complètement et l'état-major allié en prend connaissance. Cet incident entraîne le renforcement des positions alliées dans le nord de la France, invitant Adolf Hitler à tenter le coup de faux des Ardennes. Sur le front occidental, le dispositif allemand comporte trois ensembles d'armées. Le groupe von Lieb, à gauche, sur la ligne Siegfried, face à la ligne Maginot, a un rôle défensif. Les groupes von Bock, à l'aile septentrionale, et von Rundstedt, à l'aile méridionale, sont chargés de la mission offensive. Préparant l'invasion de la Belgique, Hitler envisage l'éventualité d'un échec du groupe d'armée nord confronté à d'importants obstacles naturels et à la masse de manœuvres alliées. Il pense donc se ménager des possibilités à l'aile sud en faisant un effort secondaire sur Sedan avec deux divisions blindées sur les 9 disponibles et en prévoyant que le centre de gravité puisse être transféré au sud durant l'opération militaire. Les Français ne conçoivent que la réédition de la première phase du plan Schlieffen de 1914, à savoir l'invasion de la Belgique. Il prévoit l'envoi dans la plaine belge, au nord de la Sambre, dès le déclenchement de l'attaque allemande, de la grande majorité de leurs unités blindées et de l'excellente armée britannique. Les indications météorologiques incitent Hitler à fixer le jour J au 17 janvier. Leur hache est déterminée 15 minutes avant le lever du soleil à Aix-la-Chapelle, donc à 8h16 très précisément. Dans la soirée du 9 janvier, à Münster, en Westphalie, au siège de l'état-major de la 2e flotte aérienne, le major Rheinberger est avisé de se tenir prêt à partir le lendemain matin pour Cologne, en vue de régler avec l'état-major du 1er corps armé certaines opérations communes. Il reçoit tous les ordres généraux et les documents de base nécessaires. Il voyage en train car le transport de pièces secrètes par air est strictement interdit. Au casino de la base aérienne, il rencontre le major de réserve Wenmans, qui lui propose de le conduire à Cologne dans son avion personnel. Le 10 janvier à 11h, les deux officiers supérieurs s'envolent à bord d'un Messerschmitt 108. En cours de vol, le ciel se couvre et la visibilité devient mauvaise. Le moteur s'arrête, un atterrissage forcé est indispensable. Un brave paysan qui travaille dans son champ annonce aux deux aviateurs qu'ils sont en Belgique, près de Mechelen-sur-Meuse, dans le Limbourg. Rheinberger révèle alors à son compagnon que sa serviette est pleine d'ordres ultra secrets qui ne doivent en aucun cas tomber aux mains des Belges. Il se précipite derrière une haie pour brûler ses papiers. Pendant ce temps, Wenmans amuse les gardes frontières belges qui accourent. Ils aperçoivent une fumée suspecte qui monte de la haie voisine. Ils se précipitent, éteignent le feu à coups de botte et ramassent les papiers non encore consumés. Peu après, survient un officier belge, le capitaine Rodrigue, commandant un escadron cycliste qui fait les premières constatations. Il conduit les officiers allemands à Mechelen et téléphone à Bruxelles. Il lui est recommandé de traiter avec courtoisie ses hôtes de passage. Vers 18h, arrive le major Verhagen de l'état-major général belge. Il examine les papiers récupérés et certifie leur authenticité. Par téléphone, il communique les premiers résultats de son enquête au chef du contre-espionnage qui avise à son tour à 21h le général von Overstraten, conseiller militaire du roi Léopold III. Dans la nuit, les papiers sont traduits. Le témoignage du général von Overstraten est explicite. Le premier document est l'ordre général d'opération de la 2e flotte aérienne. Le voile est déchiré. L'action vise à la destruction de l'armée belge, de l'armée anglaise et d'une partie aussi importante que possible de l'armée française. Certes, la date de l'offensive n'est pas précisée, mais les documents indiquent qu'un temps sec et froid comme le temps actuel favorisera l'opération. D'autre part, des renseignements annoncent des mouvements allemands à notre frontière. L'offensive pourrait commencer dans 2 ou 3 jours. Le général avise le colonel français Hautecoeur, officier de liaison, à qui il remet un relevé écrit de sa main des principaux ordres allemands, apporté de la part du roi au général Gamelin à Vincennes. Le 13 janvier à 20h, Bruxelles réceptionne un message du colonel Goethals, attaché militaire belge à Berlin. Il annonce que l'attaque allemande est avancée au lendemain. Des dispositions de mobilisation et d'alerte sont prises. Les conditions météorologiques évoluent. Un vent chaud souffle, il dégèle et il pleut. L'invasion de la Belgique est ajournée. Le terrain fangeux et la mauvaise visibilité se prêtent mal à l'action conjuguée des chars et de l'aviation. Hitler est pris d'une rage folle. Il limoge le général Felmy, commandant de la 2e flotte aérienne, qui est remplacé par le maréchal Kesselring. Les gouvernements français et britanniques sont maintenant partisans d'une entrée préventive sur le territoire belge. Le 15 janvier à 9h30 au château de Laeken, le roi des Belges reçoit l'amiral Keyes qui lui remet un message affirmant que le gouvernement de Sa Majesté est prêt à accepter l'invitation du gouvernement belge aux forces britanniques d'entrer en territoire belge. Il donne également certaines assurances relatives à l'intégrité future de la Belgique et une assistance financière. Cependant, Léopold III et son conseiller militaire s'opposent à la pénétration des troupes alliées avant toute invasion allemande. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. C'est Serge Lama qui nous accompagne en chanson tout au long de cette émission. Nous écoutons pour commencer un titre de 1974, « Mon ami, mon maître ». Et ensuite, ce sera la chronique littéraire présentée aujourd'hui par Emmanuel.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui, lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne, de ses secrets il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe 1 heure ou 2 chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres qu'Emmanuel va nous présenter, vous présenter dans un instant. Nous commençons cette chronique littéraire par l'Antiquité avec Babylone, le temps de la vengeance. C'est signé Catherine David et Françoise Bourron et c'est publié aux éditions Ixo.
Après le tome 1, Babylone, le réveil des passions, voici le tome 2, Babylone, le temps de la vengeance. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Nabonide, récemment installé sur le trône, consacre l'essentiel de son temps à restaurer les vestiges de l'illustre Babylone, notamment ses jardins suspendus et ses palais flamboyants. Son fils, quant à lui, rêve de prendre sa place. Comme avec le premier tome, la menace rôde. Cette fois-ci, ce sont un incendie et la mort de chevaux qui sont les signes avant-coureurs. Qui est visé par une menace mortelle ? Le roi, reconstruisant des temples et tout entièrement consacré au dieu de la lune, ou son fils ?
Babylone, le temps de la vengeance, est signé Catherine David et Françoise Bourron et c'est publié aux éditions Ixo. L'oreille de Kiev d'Andrei Kourkov aux éditions Liana Levy.
À Kiev, en février 1919, en pleine cacophonie révolutionnaire, la ville est tombée aux mains des bolcheviks. On y trouve des armes à foison, de l'or nulle part, des bandits, des voleurs 100 fois plus nombreux. Le nouveau pouvoir s'y met en place tant bien que mal, alors que la guerre civile fait rage dans la région, en proie à des combats opposant blancs et rouges, anarchistes et nationalistes. Samson, jeune étudiant, se retrouve du jour au lendemain à devoir se débrouiller seul, après avoir perdu son père et son oreille droite, d'où le titre, sous le sabre d'un cosaque. Dès lors, tout se précipite pour lui, enrôlé presque par hasard dans la milice. C'est l'effervescence de cette période charnière dans l'histoire de l'Ukraine qui nous est relatée ici.
L'oreille de Kiev d'Andrei Kourkov, c'est aux éditions Liana Levy. Et nous terminons cette chronique, Emmanuel, par un ouvrage qui n'est pas un roman. Terre de sang, terre au pluriel, l'Europe entre Hitler et Staline de Timothy Schneider. Schneider, excusez-moi.
Schneider. Aux éditions. Pardon. Schneider.
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 Oui, Schneider, c'est bien ça. Aux éditions Gallimard.
Alors, il s'agit d'une réédition de la somme de Timothy Schneider, complétée d'ailleurs par ailleurs. Il commence ses mots par « Voici l'histoire d'un meurtre politique de masse ». C'est ainsi qu'il entame le récit de la catastrophe, au cours de laquelle, entre 1933 et 1945, 14 millions de civils, principalement des femmes, des enfants et des vieillards, ont été tués par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. Tous l'ont été dans un même territoire, que l'auteur appelle les terres de sang, et qui s'étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale, en passant par l'Ukraine, la Biélorussie et les Pays-Baltes. Plus de la moitié d'entre eux sont morts de faim, du fait de deux des plus grands massacres de l'histoire, les famines préméditées par Staline, principalement en Ukraine, au début des années 30, qui ont fait plus de 4 millions de morts, et l'affamement par Hitler de quelques 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques au début des années 40. Ils ont précédé l'Holocauste, et selon l'auteur, aide à le comprendre.
Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline de Timothy Snyder. C'est aux éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette chronique littéraire et par là même cette émission Historama. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce recensement de vos lectures. Nous allons nous séparer en chanson après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. C'est toujours Serge Lama, un titre de 1969, Les Ballons Rouges.
Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air, j'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. L'effet n'était pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance quand j'étais gosse dans mon quartier de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne et de gloire qui soient plus orgueilleux que moi.